L'interview du sel, le service d'entraide et de liaison. Une action chrétienne dans un monde en détresse. Selfrance.org.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour notre émission mensuelle sur le sel et ses actualités. Et je suis aujourd'hui avec le directeur général du sel, David Alonso, et nous allons parler de différents sujets liés un peu à ce qu'on appelle parfois la fatigue compassionnelle et d'autres sujets proches. On expliquera de quoi est-ce qu'il s'agit. David Alonso, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous sommes constamment exposés, en particulier par les médias, à la détresse humaine partout dans le monde, et ça dans une mesure assez considérable. Il en résulte parfois que notre capacité à faire preuve de compassion chute. Est-ce que tu peux un peu expliquer cela ?
Je ne suis pas un spécialiste en psychologie du don, on va être très clair dessus, mais c'est un constat que nous faisons, surtout là, on sort de la période des appels à dons importants que toutes les associations ont émises dans les deux derniers mois de l'année. Il est très clair qu'à un moment donné, le niveau de sollicitation, le niveau aussi de présentation médiatique lorsqu'il y a des successions de crises, nous font atteindre un peu la limite de ce que nous pouvons accepter de recevoir et de supporter. Et je pense que naturellement, dans une démarche aussi de protection, la personne se ferme et globalement met un espace entre elle et puis ses sollicitations, qu'elle vit comme étant une surpression, qu'elle vit comme étant, en fin de compte, un élément qui va l'irriter. Et on le voit hein, très clairement, des publics qui acceptent sans souci, en fin de compte, un certain type de communication dans le courant de l'année, vont devenir réticents à la même communication, alors que, association par association, il n'y a pas fondamentalement d'augmentation de messages, mais en cumulatif, c'est le cas. L'autre cas qui est tout à fait classique aujourd'hui, c'est quand vous avez une urgence extrêmement médiatique qui va déclencher un très très fort taux de réponse du public. On le voit lorsque vous avez ces engagements qui se font surtout sur des grandes catastrophes naturelles. Les urgences qui passent derrière ont beaucoup, beaucoup de mal à exister parce que le niveau de sollicitation a été tellement élevé qu'en fait, ensuite, la personne ne déclenche plus, en fin de compte, son niveau de sensibilité. Elle n'est pas insensible, c'est simplement qu'elle a été extrêmement sensibilisée précédemment. Il y a une sorte aussi peut-être de souffrance hein, qui est là et donc une sorte de protection et de déclenchement qui ne se fait plus.
Donc ça veut dire que quand on est trop exposé aux catastrophes naturelles, aux situations humanitaires d'urgence, on finit par se protéger en essayant de ne plus ressentir ce qui nous est proposé par les médias ou par les associations ?
Pour certains, oui, et on le constate même de façon plus générale. Quand vous trouvez que le contexte médiatique est beaucoup trop anxiogène, vous avez une partie de la population qui peut décider de ne plus regarder les médias. C'est une façon, en fin de compte, de faire disparaître la source, en fin de compte, qui va générer ce désagrément de façon légère ou cette souffrance de façon importante. Il peut y avoir aussi une démarche de rejet sur le fond, hein, c'est-à-dire sur l'approche qui est vécue comme étant une approche manipulatoire, une approche intrusive. Quand vous êtes soumis constamment à un flux de messages que vous n'avez pas demandé et que ces messages portent une émotion, et une émotion négative, culpabilisante dans un nombre de cas, vous pouvez aussi demander à ce que votre contexte de vie soit pas constamment inondé de ce genre de sujet. Donc, ça fait partie typiquement des réflexions au sel où on va s'interdire un sujet culpabilisant. Si vous regardez la communication du sel, il serait sans doute parfois plus facile de montrer des images, des visuels, des vidéos beaucoup plus dures sur les sujets, mais on refusera de tomber dedans, d'abord par respect du bénéficiaire, très clairement, on considère que nous n'avons pas à montrer des personnes dans ce genre de situation-là, c'est le contexte qui fait la pauvreté, c'est pas la personne dans son message, et deuxièmement parce qu'on se rend compte aussi que ça a un impact émotionnel qui peut dépasser ce que le public est capable de gérer. Et donc ça gère de la souffrance, et ce que cette souffrance génère du refus ou du rejet.
Pour d'autres personnes, l'exposition à la détresse est encore plus directe. Par exemple, par leur profession, elles vont être confrontées à des situations extrêmes. C'est le cas de soignants, c'est le cas de professionnels de l'humanitaire. Et on observe parfois un phénomène qu'on appelle de fatigue compassionnelle. Est-ce que c'est la même chose que ce dont on vient de parler, ou est-ce que c'est quelque chose de différent ? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as déjà pu observer ?
Alors, moi, je considère que c'est du même ordre. Je rappelle, hein, je ne suis pas psy, donc je suis quelqu'un qui le constate parce que j'ai eu l'occasion, à travers mes différentes vies professionnelles, de travailler avec beaucoup de personnes qui revenaient soit du secteur social avec qui je travaillais, soit du secteur humanitaire, et j'ai régulièrement retrouvé en fin de compte une perte d'empathie une perte, on parle ici de fatigue compassionnelle, mais en fait c'est cette capacité aussi d'être à l'écoute de l'autre, de ressentir ce qu'il ressent sans se mettre à sa place, donc la belle empathie, et celle-ci se fatigue, on atteint une limite tout simplement. Je l'ai souvent vu de retour d'humanitaire sur des terrains difficiles, d'autant plus quand le choc est, je reviens d'un territoire dans lequel j'ai vu des gens en situation de survie mourir devant moi, et je me suis battu pour les aider à vivre, je pense en particulier à des gens dans le secteur médical, infirmiers ou médecins, et puis qui reviennent en France et qui arrivent dans notre contexte de préparation des fêtes de Noël, et puis de quel est le cadeau que je vais choisir. Là, à un moment donné, il y a un clash complet, et puis il y a un moment donné où il y a une fracture qui se fait au sein de la personne, et c'est pas pour rien que dans ce genre de métier, parce que c'est un vrai métier, il y a un besoin aussi d'un accompagnement de la personne au niveau psychologique, parce qu'elle fait face à des choses qui relèvent du trauma. Alors, on n'est pas sur le même type de cause que lorsqu'on parle de la fatigue du donateur, parce que c'est ça dont on parlait juste avant. Ici, on est sur une fatigue qui est liée à la nature même de la confrontation du travail et de ce que la personne porte. Et c'est vrai que j'ai régulièrement constaté une forme de dureté qui s'est installée, une distance. Il y a une façon aussi, on le dit dans un certain nombre de professions, un humour qui peut s'installer, qui est un peu cynique, mais qui est en fin de compte une forme de protection. C'est une distance qui est posée par rapport au sujet, parce que le sujet nous est extrêmement pénible.
Alors là, on a un petit peu parler de faits. Maintenant, on peut se poser la question de savoir ce qu'il faut faire face à ces faits. Et dans un monde qui est marqué par tant de formes de détresse, est-ce que c'est constructif, et si oui, dans quelle mesure, de s'exposer soi-même à toujours plus de problématiques qui nous dépassent, en particulier quand ces problématiques sont des problématiques qui concernent des personnes et des populations à l'autre bout du monde? Est-ce que c'est pas trop lourd à porter, et quel est ton regard en tant que chrétien sur ces choses?
Alors, il faut se rappeler que nous ne pouvons pas aujourd'hui imaginer recevoir tout ce qui passe au niveau de nos médias en termes d'expression de souffrance, de crise. En plus, on a un univers médiatique qui se nourrit principalement des éléments négatifs de nos sociétés. Faire un média positif, vous avez pratiquement personne qui regarde, il en existe quelques-uns, mais très peu. Donc, si nous ne sommes pas capables de poser en fin de compte un tri en entrée au niveau de chacun d'entre nous à titre individuel, en identifiant aussi quels sont les points sur lesquels l'émotion légitime que l'on ressent devient aussi un élément de souffrance, voire de manipulation. Parce que quand une émotion prend le dessus sur une personne, l'arrêté, c'est que c'est l'émotion qui fait la décision et plus la personne. Si on rentre dans ce genre de territoire-là, on devient facilement, en fin de compte, blessé et puis donc résigné, voire dégoûté dans un deuxième temps. Il est vraiment important de développer une capacité de recul. Une capacité de recul toute simple, c'est d'éteindre sa télé, c'est de déconnecter des réseaux sociaux de temps en temps, c'est d'aller choisir l'information que l'on regarde. Un des vrais risques aujourd'hui, c'est que une partie des flux d'informations, vous choisissez un canal, alors que ce soit un canal sur YouTube, que ce soit un canal aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais en fait, vous ne contrôlez pas le contenu qui va déverser vers vous. Vous ne sélectionnez pas ce que vous allez recevoir, parce que c'est un flot continu d'informations. Il faut passer à une information beaucoup plus choisie, une information où vous sélectionnez les articles, les reportages, les livres que vous allez lire, parce que vous êtes dans une démarche où vous êtes conscient aussi de votre propre limite. Et je parle pour moi, c'est vraiment une démarche que c'est mon métier depuis des années, donc je suis obligé de faire attention à ça, et j'identifie en amont la limite de ce que je peux porter. Et je pense que très clairement aussi en termes chrétiens, Dieu ne nous demande pas de porter de façon illimitée tout ce qui nous arrive dans les yeux et les oreilles. Ce n'est pas possible. C'est juste une façon de se noyer. On doit être conscient que Dieu nous rend capable de porter ce que nous pouvons porter. Et je pense que la plupart du temps, ce que nous pouvons porter est beaucoup plus limité que ce que nous voudrions porter. Et donc, il est important dans notre prière, dans notre piété personnelle, de pouvoir remettre à Dieu ces sujets qui nous arrivent, parce que c'est aussi une façon de lui dire, nous croyons que tu es le souverain, et que tu es in fine celui qui est en maître de ses destins, et pas nous. Ça nous permet aussi de reprendre notre place dans un plan dans lequel nous ne sommes pas les maîtres de ce plan. Et donc de ne pas être couvert d'une surresponsabilité qui aboutit vite aussi à de la culpabilité trop forte. Et je suis pas en train de dire qu'il faut pas non plus ne pas se sentir coupable. Il y a un certain nombre de sujets dans lesquels il est justifié qu'on se dise « c'est pas normal que eux ils aient pas alors que nous on est ». Et c'est bien qu'on ait cette réaction-là. Mais il faut ensuite que la mesure de la réponse soit aussi à la mesure de ce que l'on peut porter. Aucun d'entre nous n'est illimité. Et il faut vraiment faire attention et n'ayons pas peur d'accepter que la limite posée est une limite qui peut être décevante, mais ne pas la savoir, c'est sans doute ça le plus dangereux.
Le seul soutien des partenaires chrétiens locaux qui travaillent pour certains d'entre eux dans des pays dans lesquels les situations semblent s'aggraver. comment continuer à motiver les donateurs en France et leur montrer que ça en vaut la peine? Comment est-ce que tu caractériserais le type de communication que le SEL essaye de faire sur des situations de pauvreté particulièrement graves?
Alors, je pense qu'il y a deux mots pour qualifier ce que nous souhaitons, et l'intention n'est pas obligatoirement le résultat. On peut poser une intention aujourd'hui et la perception n'est pas celle que nous souhaitions, on peut se rater. Notre intention, c'est d'informer et de responsabiliser. Informer, on part du principe que si on ne sait pas, on ne peut pas deviner, ou on devine mal, on est conscient que plusieurs des sujets que nous abordons sont des sujets qui ne sont pas aujourd'hui à l'ordre du jour de nos médias dominants. Il y a d'autres thématiques. La France est saturée depuis maintenant plusieurs années. L'univers médiatique occidental est saturé, en fin de compte, d'informations. On est conscient que les sujets que nous portons, si on les porte pas avec le regard que nous avons, hein, c'est-à-dire en fin de compte aussi cette confiance que nous avons dans nos partenaires, dans la façon dont ils interviennent, communauté par communauté, personne et par personne, si on n'est pas capable d'informer déjà sur ce qui se fait, nos publics, et en particulier nos donateurs, ne pourront même pas savoir, en fin de compte, qu'il y a une action faite. Le deuxième point, c'est la responsabilité. On est dans le cadre d'une chaîne de responsabilité au SEL. Dans cette chaîne de responsabilité, le SEL a sa part, c'est informer les publics, protestants et notamment évangéliques, de cet engagement que ont des frères et des sœurs dans les pays les plus pauvres, au profit des plus pauvres de cette planète. C'est une responsabilité partagée parce qu'on considère que Dieu nous a donné dans cette chaîne un rôle à chacun. Nos bénéficiaires ont un rôle, il faut aussi qu'ils acceptent de se mettre en marche et d'avoir la volonté de recevoir ce qu'on leur donne pour qu'ils puissent ensuite s'en sortir. Mais c'est aussi notre responsabilité ici, nous, d'informer et de responsabiliser. Et c'est la responsabilité des chrétiens qui sont là et qui nous écoutent, de prier, de partager ces sujets, de donner pour permettre à l'autre bout de la chaîne, à nos bénéficiaires, de sortir de la pauvreté.
En tant que directeur général du SEL, comment est-ce que tu fais pour garder l'espérance et pour communiquer au public du SEL un message d'espérance?
Alors personnellement, ceux qui me connaissent savent que je suis plutôt de nature pessimiste. Donc, et que derrière mon humour et mon petit côté taquin, il y a quand même un petit côté angoissé. Et moi, ce qui nourrit mon espérance, c'est tout simplement de regarder à Christ. Chaque fois que je regarde ce qu'il a fait pour moi, je regarde la façon dont il chemine et il prépare chacune des étapes de ma vie, l'espérance est là. L'espérance, c'est pas David, l'espérance, c'est le Christ. Et on a de la chance, il est vivant. Et donc, pour moi, la clé de mon espérance, c'est vraiment de me laisser aimer par Christ et d'essayer de le lui rendre. Et une des façons de rendre ce que Dieu nous a donné, c'est d'aimer. Et donc, j'essaye d'aimer, et je suis conscient que ma capacité d'aimer est limitée. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Derrière cette responsabilité, c'est comment est-ce qu'on aime en action. Et aimer en action, c'est aussi d'être conscient que notre capacité d'aimer en action, elle est limitée, et qu'elle se ressource constamment, dans mon cas, auprès du Christ. Et je pense qu'une partie de la fatigue aussi, qui peut nous toucher, c'est quand, et je pense en particulier à ceux qui se sont, j'ai plusieurs amis qui sont dans le secteur social, très engagés. Souvent, la question que je me pose, c'est où est-ce que vous vous ressourcez? Où est-ce que vous allez retrouver l'énergie nécessaire, le regard compassionnel dont vous avez besoin pour pouvoir porter sur l'autre un regard qui n'est pas juste un regard de fatigue ou de dépit ou de vivement que ça s'en finisse, quoi. Et là, une des solutions pour moi, c'est vraiment de retourner au cœur du Christ et de me laisser aimer, d'être repentant, d'être conscient que je suis pas à la hauteur de ce que je devrais faire, de demander pardon et puis de me sentir aimé pour ce que je suis. Et avec ça, ça permet de repartir. Et une journée à la fois, c'est déjà pas mal.
Merci beaucoup, David, d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Donc pour nos auditeurs qui veulent en savoir plus sur ce que fait le SEL et ce que font les partenaires chrétiens locaux du SEL, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.selfrance.org. Nous avons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.
L'interview du SEL, le service d'entraide et de liaison. Une action chrétienne dans un monde en détresse. selfrance.org.